Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire le verset que nous avons évoqué tout à l'heure, Jean 21, au verset 25. Jean 21, 25 qui dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Amen. Voilà ce que dit l'apôtre Jean. Jésus a fait tellement de choses merveilleuses que tous les livres ne pourraient pas contenir cela. Et aujourd'hui, nous avons la démonstration avec l'histoire de Khalil, cet homme qui avait une mission, c'était de trouver les failles de la Bible pour démontrer en quelque sorte que les chrétiens sont dans le faux, les chrétiens sont dans le mensonge, et par là, crédibiliser la thèse de l'islam. Et nous voyons le travail que le Seigneur a pu faire dans la vie de cet homme. Il y a beaucoup de commentaires à faire, donc je laisse la parole à celui qui veut s'exprimer. Est-ce que nous avons relevé quelques points qui nous ont marqués ou touchés?
Moi, j'ai été touchée parce que au début, en fait, Khalil, quand on lui a donné la Bible entre les mains, il l'a jetée, en fait. Et ce qui m'a touchée, c'est quand il a commencé à être convaincu par la parole de Dieu, il s'est tout de suite rappelé et il a appelé un ami qui s'appelle Timothée. Et moi, ce qui m'a touchée dedans, c'est que mon grand frère, en fait, il est imam aujourd'hui. Et au téléphone, il m'a maudit une fois parce que, en fait, je lui ai dit la vérité sur le Seigneur. Il m'a maudit. Et aujourd'hui, ça me touche parce que, et ça me rassure, ça m'encourage parce que je me dis qu'un jour, quand le Seigneur va vraiment le toucher, il se rappellera de ce que je lui ai dit. Et puis, un jour, peut-être qu'il m'appellera aussi, quoi. Donc, ça m'a vraiment touché.
Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Par rapport aux commentaires que tu fais, il y a une phrase qui a été dite lorsqu'on lui donne la Bible. Il refuse. Il y a quelqu'un qui a dit une phrase. Je ne sais pas si on se souvient de cette phrase-là. Personne ne se souvient de cette phrase. Sur les chrétiens, lorsqu'ils refusent de prendre la Bible, il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur les chrétiens et sur la Bible. Oui, ma soeur Philippe.
En fait, si je me souviens bien, cette personne disait que sa mère parlait des chrétiens qui jetaient des sorts,
qui maudissent. Pourquoi je soulève ce point-là? C'est très important de comprendre que beaucoup, en réalité, ils prennent des positions parce qu'on leur a dit les choses ainsi. Donc, quand ils refusent de prendre la Bible, quelqu'un lui dit « Oui, mais de toutes les façons, les chrétiens utilisent la Bible pour jeter des sorts aux gens. » Et c'est de la même manière, il y a des gens qui ont des positions sur des chrétiens parce qu'on leur a dit que la vie chrétienne, c'est une vie de tristesse, c'est une vie où tu n'as plus le droit de mentir, tu n'as plus le droit d'écouter la musique, tu n'as plus... En fait, il n'y a pas de recherche personnelle, il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu. Et c'est vraiment typique des religions. On voit ça dans beaucoup de religions, où les gens ont des positions, tout simplement parce que les choses ont été enseignées comme ça, peut-être dans l'éducation familiale, ou alors dans le système religieux dans lequel ils sont. Ils ont des positions, mais sans avoir... vérifier à la source. Et le but aussi de ce temps, c'est de nous dire, je pense qu'on a eu plusieurs prédications là-dessus, c'est être responsable lorsque on nous donne une information, c'est d'aller à la source, de vérifier. On te donne un verset, on te prêche, on dit les Juifs de Béret, qu'est-ce qu'on dit, quels commentaires on dit d'eux? Ils avaient des sentiments plus nobles que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils vérifiaient si ce qu'on disait était vrai. Et qui prêchait? C'était Paul qui prêchait. Et ils vérifiaient. Lorsqu'ils rentraient chez eux, et peut-être s'ils avaient des questions, ils n'hésitaient pas à poser des questions. Et ce commentaire-là m'a touché parce que, effectivement, beaucoup ont une image. Ici, nous sommes ici en France, mais pour quelqu'un qui est du côté de l'Orient, par exemple, lorsqu'on dit chrétien, lui, il voit le pape. Lui, il voit le catholicisme. Et pour lui, ils sont tous dans la même sauce. Et c'est le jour où il va rencontrer un véritable chrétien qui va se dire, mais finalement, le catholicisme et le fait d'être chrétien véritable, ça n'a rien à voir. Je me rappelle une fois, il arrivait qu'on discute avec un collègue qui n'est plus là aujourd'hui, qui est parti au Maroc, qui est imam aujourd'hui, fils d'imam, et qui lisait beaucoup la Bible. Et la connaissance théorique de la Bible, les versets bibliques, c'est même plus que beaucoup de chrétiens. Tu lui parles de quelque chose, il dit, c'est écrit dans tel verset. Tu lui parles, il dit, c'est écrit dans tel verset. Tu lui parles, il connaît vraiment la Bible théoriquement. Et ce qui a fait la différence finalement, c'était pas les discussions. On discutait argument contre argument, mais ce qui a fait la différence, c'était au niveau du comportement, tout simplement. Au niveau de l'attitude, au niveau de la douceur. Lorsqu'il avait un conseil, il dit, tiens Jean-Luc, je peux te poser une question. Et un jour, il me dit, mais finalement, toi, en parlant de moi et d'un collègue, Arnaud, il dit, mais finalement, vous ferez des très bons musulmans. Même plus que les autres qui se disent musulmans, parce qu'ils se disent musulmans, mais en réalité, c'est une étiquette familiale, tout simplement. Mais le fait qu'on se côtoie, eh ben, finalement, ça a changé sa façon de voir les choses par rapport aux chrétiens. Il a compris qu'effectivement, il y a le catholicisme, il y a aussi d'autres mouvements qui se disent chrétiens, mais il y a aussi le chrétien qui vit sa vie chrétienne tous les jours. Et c'est ça c'est très important ce point-là, de comprendre que beaucoup ont des positions parce qu'ils ont été formatés, parce qu'on leur a mis des choses dans la tête en disant le chrétien c'est comme ça. Et le jour où tu rencontres une telle personne, eh ben, il ne faut pas que ça te déstabilise. Qu'on te dise, mais les chrétiens, vous faites... Et tu t'énerves. Non, tu restes tranquille, calme, tu vis la vie de Jésus. Et on a vu finalement, c'est que la vie du Seigneur, lorsqu'il a fait la démarche lui-même de s'approcher du Seigneur, on a vu ce que ça a produit. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que le diable lui-même, il néglige la puissance de Dieu au travers des Écritures, parce que le but du diable, c'est pas de sauver, justement, c'est de détruire, mais au travers Elémir, enfin, c'est comme ça qu'il a lu la parole de Dieu. Et malgré tout, c'est le diable qui gérait ce monsieur-là. Donc, le diable n'est vraiment pas conscient de la puissance de Dieu au travers des Écritures, parce qu'on voit le changement que ça a produit dans Khalil. Je pense que si le diable était au courant de ça, il n'aurait pas permis que lui-même lui tende la Bible, entre guillemets.
Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire, et c'était... Parce que la conclusion de... Mais on va prendre ce point-là, comme on a parlé de ça. C'est l'importance de la parole de Dieu. L'importance, la puissance de la parole de Dieu. Dieu a choisi de se révéler aux humains par sa parole. Il aurait pu prendre d'autres moyens, mais il a pris sa parole. Et nous lisons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. On peut commencer à partir du verset 8. Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Il parle de sa parole et il dit que lorsqu'il envoie sa parole, eh bien, sa parole, elle vient avec une mission. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose au hasard comme ça qu'on lance. Lorsque Dieu sort sa parole, il donne une comparaison très forte. Il dit, la pluie qui tombe ou la neige, lorsque la pluie tombe, eh ben, la pluie ne s'arrête pas à un mètre du sol. Lorsque la pluie tombe, elle mouille le sol, qu'on le veuille ou pas. Et quand elle mouille le sol, eh ben, y a des choses qui se produisent. Pour les agriculteurs, pour les gens qui travaillent dans les champs, eh ben, cela est bénéfique, même pour l'atmosphère tout simplement. Et il compare sa parole à la pluie qui tombe. Il dit, de même, lorsqu'il envoie sa parole, eh ben, sa parole a une puissance. Elle vient accomplir une mission. Et l'exhortation, c'est de nous montrer l'importance de la parole de Dieu. L'importance de la parole de Dieu. Au travers de la parole, on a vu la transformation que cet homme a subie. Qui a prêché à Khalil? Qui lui a parlé de Jésus? C'est le Seigneur lui-même par sa parole. Alors, posons-nous des questions. Nous qui avons la Bible, nous qui avons les promesses du Seigneur, nous qui lisons tous les jours, qui recevons des messages pour certains tous les matins, qui écoutons des prédications. Est-ce que cette parole produit quelque chose en nous? Est-ce que la parole que nous entendons, est-ce qu'elle nous transforme? Est-ce qu'elle nous amène ne serait-ce que le sentiment de repentance pour nous dire « Non, j'ai mal fait ». On a vu, lorsqu'il a été touché, il est venu se prosterner, il est venu se mettre à genoux devant sa mère pour dire « Je te demande pardon, j'étais violent, je manquais d'amour ». Et voilà ce que la parole de Dieu produit. La parole de Dieu est puissante et elle agit. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit « Nous rendons grâce continuellement à Dieu de ce que, en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu qui agit. » Et la question c'est, est-ce que nous réalisons que c'est la parole de Dieu que nous recevons? Ou alors, c'est la parole d'un homme? Si on considère que c'est la parole d'un homme, c'est normal. On va chercher la petite bête. Ah, le frère m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour qui il se prend? Lui-même là. Est-ce que lui-même il est correct? Est-ce que lui-même il est juste? Est-ce que lui-même il ne pêche pas? Est-ce que... Non, mais quand on considère que c'est la parole de Dieu, on considère que c'est Dieu qui me parle. Même si l'instrument n'est pas l'instrument qu'on aurait voulu, et Dieu, c'est lui qui choisit, mais on s'humilie, on dit, bon, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Voilà l'importance de la parole de Dieu. Et ce qu'on a dit, la parole de Dieu touche le cœur et transforme et fait de nous des êtres nouveaux, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle création, est une nouvelle créature. Et voilà ce que produit la parole de Dieu. Donc, ne négligeons pas la parole du Seigneur. Ne négligeons pas la parole. On a vu, lorsque le diable a attaqué le Seigneur dans Matthieu 4, et lorsqu'il est venu le tenter, il a utilisé la parole. Il a voulu changer la parole. Et c'est la même chose que Satan a fait, le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Il s'est attaqué à la parole. Et la même chose, le diable aussi va faire la même chose avec nous en voulant attaquer la parole, en voulant toucher notre foi, en disant « Mais finalement, tu as cru, mais regarde, tu es chrétien, mais regarde ta vie. Qu'est-ce que Dieu fait pour toi ?» Et c'est ce que le diable a voulu faire avec le Seigneur Jésus, mais en oubliant que Jésus était la parole vivante. La parole de Dieu agit et c'est une arme que nous devons utiliser avec foi au nom de Jésus. Oui, le diacre Patrick a une intervention.
Oui, je disais, c'est, ce film-là, c'est vrai, on l'a revu plusieurs fois. Mais là, il y a quelque chose qui me montre encore. Donc, en regardant ça aujourd'hui, j'ai pensé en fait à Saul de Tarse, l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens. Mais Dieu s'est révélé à lui. Et il a changé, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes également les fruits de son apostolat. Parce que c'est lui qui nous enseigne encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça me dit simplement que vraiment, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Donc, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fera encore aujourd'hui. Donc, c'est un encouragement à ne pas baisser les bras, à continuer à parler du Seigneur. Et puis, il y a une question internet aussi. Donc, la personne qui pose la question, il dit, est-il convenable à un chrétien d'accepter une bénédiction d'un musulman, par exemple, quand il peut dire que Dieu vous bénisse, tout en sachant qu'il ne s'agit pas de notre Dieu?
Oui, donc cette question-là, c'est une bonne question. Et moi, j'ai été confronté aussi à ça. Et c'est un point que j'ai soulevé ici. C'est ce que Khalil dit, mais je vais répondre à la question. C'est un point que j'ai écrit. Il fait une observation importante. Il dit « La Bible et le Coran ne peuvent pas prétendre dire la vérité en même temps. » Et ça, c'est très important de réaliser et de comprendre cela. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec mon collègue qui, avant, on était argument contre argument, on discutait. Moi, j'ai amené la parole, la Bible. Lui, il a amené la Bible et le Coran. Il avait les deux. Donc, il jouait sur les deux terrains. Et on discutait. Et finalement, il me dit à la fin, il me dit, bon, mais tout ce que tu dis, tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, tout ce qui concerne les prophéties à venir, le Coran aussi parle de ça, de la dépravation des mœurs dans les derniers temps, de tout ce qu'on vit, l'égoïsme, la rébellion des enfants envers leurs parents. Il dit, mais le Coran parle de tout ça finalement. Et il me dit, bon, en conclusion, on a le même Dieu. Je dis, non, on n'a pas le même Dieu. Donc comme il a échoué sur le plan de la discussion pour démontrer que la Bible est fausse, finalement, il arrive à la conclusion pour dire, bon, finalement, on a le même Dieu. J'ai dit, non, on n'a pas le même Dieu. La Bible ne peut pas dire que Jésus est le sauveur, le seul chemin. Et de l'autre côté, le Coran dire que c'est votre prophète qui est le chemin. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a créé la Bible. C'est le Dieu de la Bible. C'est le seul et le véritable Dieu. Voilà, c'est le seul et le véritable Dieu. Et c'est important de comprendre ça, parce que souvent dans les discussions, lorsqu'une personne est à court d'arguments, il va vouloir nous faire passer ça en douce pour nous dire, bon, finalement, on a le même Dieu. Mais comme on ne veut pas aussi froisser la personne parce que finalement, on a de bonnes relations, eh ben, refuser cela, c'est chercher aussi l'affrontement, le conflit. Et moi, j'ai dit, non, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu, il y a un seul Dieu. C'est le Père de Jésus-Christ. C'est lui le seul, le véritable, l'unique Dieu. Et c'est très important d'être clair là-dessus. Parfois, il y a des chrétiens qui, voilà, devant le manque d'arguments, eh ben, ils acceptent des choses de la part des musulmans ou encore d'autres, hein, tout simplement parce qu'ils ont une certaine morale, dire, bon, finalement, j'accepte. Non, il faut refuser. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et on voit les prophètes qui nous ont précédés, le respect et l'honneur qu'ils avaient pour Dieu. Ils ne voulaient pas associer Dieu l'Éternel à d'autres dieux, quels qu'ils soient. Ils ne voulaient pas cela. Et nous aussi, c'est la même chose. Et l'une des ruses du diable, c'est de nous amener finalement à dire, eh ben, nous sommes tous pareils. J'ai une discussion avec une personne qui me disait, je ne sais plus ce qu'elle me disait, salam alaikum, ou quelque chose comme ça. Moi, je lui réponds en français, il dit, oh, mais tu peux répondre. Je dis, non. Une bénédiction en arabe, je ne sais même plus comment ça se dit. Moi, je réponds en français. Il dit, oui, mais tu peux. Je dis, non, parce que déjà, moi, je ne comprends pas ce que tu dis là. Oui, mais c'est une langue, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je dis, oui, si c'est une langue, comme tu parles français, bah, dis-le-moi en français alors pour que je comprenne. Pourquoi tu vas me parler dans une langue que moi, je ne comprends pas? Moi, je suis responsable. Ce que je dis ou ce que j'entends, avant de te dire amen, bah, il faut que je comprenne cela. Voilà, donc c'est très important. Donc c'est une partie de la réponse pour dire que parfois il y a des choses qu'on entend, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Il y a des jeunes, surtout là où je travaille, qui, voilà, un blond aux yeux bleus qui vit dans les quartiers, mais pour se faire accepter, il change même de nom, il s'appelle François, il va s'appeler Rachid, il va pour se faire accepter dans le quartier. Et parfois il va sortir des paroles, tu dis, mais ça veut dire quoi? Je dis, mais voilà, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc il faut être responsable, voilà. Donc pour répondre à la question c'est, est-ce qu'un chrétien peut accepter une bénédiction?
C'est cette bénédiction qu'un musulman lui dit que Dieu te bénisse et que lui il accepte cette bénédiction-là, en sachant qu'on n'a pas le même Dieu. Parce que bon, aujourd'hui entre nous chrétiens, quand on dit Dieu te bénisse, amen. Donc est-ce que venant d'un musulman que Dieu te bénisse, un chrétien doit répondre? Si je comprends bien.
Ok, un chrétien doit répondre. Moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que moi, je le bénirais moi à la place. Je dis non, c'est moi qui te bénis, que mon Dieu te bénisse. Voilà. Parce que comme tu as dit, je ne sais pas de quel Dieu, et je pense que c'est de son Dieu qui parle. Mais moi, je sais que comme j'ai la vérité, c'est moi qui le bénis. Et ma bénédiction, c'est qu'il rencontre le Seigneur. C'est ça la véritable bénédiction. Oui.
Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que la parole de Dieu a changé les cœurs. Puisque comme c'était un musulman, il croyait beaucoup à la religion musulmane, il faisait des actes criminels mauvaises. Et ben, quand il a fait ses recherches pour contredire la Bible, ben, on a vu qu'il s'est même demandé la question, est-ce que le Coran, c'est vraiment la parole de Dieu? Donc ça, la parole de Dieu, de Jésus, de Dieu, a changé vraiment les cœurs.
Oui, donc toujours par rapport à ça, il y a un point qui revient un peu, hein, dans ce qu'on a dit dans la parole de Dieu. C'est quand il dit qu'il a vérifié la Bible et qu'il s'est rendu compte que finalement il n'y avait pas d'erreur. Il a trouvé qu'il y avait des contradictions qui étaient secondaires, mais il dit, mais si je dois m'appuyer sur ces contradictions-là, dans ce cas-là, dans le Coran aussi, il y a des contradictions. Et j'ai beaucoup aimé lorsqu'il dit, dans ce cas, je dois utiliser la même mesure pour juger du Coran et de la Bible. Et finalement, il arrive à la conclusion que la Bible, eh ben, il n'y a pas d'erreur. C'est ça, et c'est ce qui est écrit dans le Proverbe 30 au verset 5, que les paroles de l'Éternel sont éprouvées et elles sont un bouclier pour celui qui croit cela. Voilà, Dieu dit que ma parole est éprouvée. Donc, c'est-à-dire que quand on dit quelque chose est éprouvé, on nous a donné plusieurs fois cet exemple-là. Lorsqu'on fabrique un véhicule, eh ben, on le soumet à une batterie de test pour vérifier la fiabilité de la carrosserie, la sécurité. Il y a des points qui sont respectés. Donc, on maltraite cette voiture-là. Mais le but, c'est d'assurer une certaine sécurité à celui qui va l'acquérir. Et c'est cela. Et Dieu lui-même me dit que sa parole est éprouvée. Et dans le psaume 119, 160, c'est écrit que le fondement de ta parole est la vérité et elle est une justice éternelle. Voilà. Donc, tu peux passer 10 jours, 10 ans, 100 ans pour essayer de démontrer que la Bible est fausse. Et bien, finalement, soit tu vas te convertir, gloire à Dieu, soit tu mourras, mais la Bible restera toujours. Donc, c'est très important de comprendre cela. Il dit que dans la Bible, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Oui, question ? Bonsoir.
Bonsoir. C'est juste par rapport à votre expérience avec le monsieur, le Marocain. J'aimerais juste vous dire que les grands esprits se rencontrent.
Tu peux parler un peu plus fort parce que j'entends. Les grands esprits se rencontrent, oui ?
Exactement. Moi-même, je lis la Bible et le Coran en même temps. Et ce que j'ai constaté, c'est que effectivement, c'est le même Dieu. Dans le fond, c'est le même Dieu. Cependant, dans la forme, ce n'est pas le même. Le Dieu du Coran, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Ce n'est pas le Dieu de l'Évangile. C'est-à-dire, dans la forme, ce n'est pas le même. Il y a la Trinité qui est remise en cause, parce que c'est un concept qui a été dégagé par Tertullien 4 siècles après l'avènement du christianisme. Et puis, le Coran ne rejette pas entièrement le christianisme. Il désapprouve cependant la doctrine paulinienne. C'est-à-dire le christianisme, on a deux mouvements au début de sa naissance. Il y a eu les judéo-nazaréens. Ce mouvement a été approuvé par, il est approuvé par le Coran. Cependant, c'est la doctrine paulinienne qui est plutôt rejetée. Et elle explique, il y a des versets qui l'expliquent pourquoi. Il y a même une reprise de ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. En fait, il y a tout un enseignement derrière. Et il dit, le Coran dit que afin que vous soyez témoins sur les autres nations. Donc, pour reprendre, être témoin de quoi ? Que Dieu a sauvé le fils d'Abraham. Il ne mentionne pas non plus le nom Isaac ou Ismaël. C'est pas ça le plus important.
Donc, Abraham,
c'est pas ça. Non, le Coran ne le mentionne pas. Cependant, la tradition musulmane attribue ça à Ismaël. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc il dit que Dieu a sauvé le fils d'Abraham, c'est-à-dire la communauté des croyants, parce que les fils d'Abraham sont la communauté des croyants. Par quel biais ? Par le biais d'un bélier, c'est-à-dire d'un sacrifice animal. Et c'est toujours, on a toujours ce système de sacrifice qu'on trouve dans l'Ancien Testament.
Tu peux aller sur la question,
cependant, oui. La nouvelle dans le christianisme, c'est qu'on n'a pas là, c'est Jésus lui-même qui se sacrifie. On a un sacrifice humain, voire même divin, si on considère Jésus comme étant Dieu. Ça, il y a, non, j'ai pas, c'est une intervention, j'ai pas de question. Donc voilà pourquoi le Coran rejette cette branche du christianisme. C'est pas le christianisme, mais j'insiste, c'est le paulinisme. Voilà.
Ok.
Merci beaucoup. Encore, c'est le même Dieu. C'est un peu long à expliquer, mais c'est le même Dieu. Le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des musulmans, et c'est dans le fond. Par contre, dans la forme, c'est pas.
C'est contradictoire ce que tu dis.
Merci.
Ben oui, c'est contradictoire. Dans ce cas, Dieu jugera les humains sur quelle base ? Sur la base de la Bible ou sur la base du Coran ?
Un point très important, les musulmans ne disent pas que la foi chrétienne est vaine ou la foi juive est vaine. Ils ne disent pas ça. Parce que le salut dans l'islam passe par deux choses. Tout d'abord, d'observer le plus grand commandement qui est la foi en Dieu. Et le deuxième, c'est les œuvres.
Ah bah ça contredit totalement ce que dit la Bible. La Bible dit que le salut s'obtient en Jésus-Christ. On salue en Jésus. Donc ça c'est largement suffisant pour moi pour dire que nous n'avons pas le même Dieu. Oui, pasteur.
Oui, il y a le Dieu du Coran ne peut pas être le Dieu de la Bible. Et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu du Nouveau Testament. La Bible nous enseigne que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La vérité est venue avec Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la Bible. Il y a eu, je dirais, un mode de fonctionnement qui a été basé sur des lois plus ou moins physiques. Et la spiritualité est venue dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ qui est venu bien expliquer l'Ancien Testament. Maintenant, on ne peut pas avoir le même Dieu dans la mesure où, jusqu'à aujourd'hui, la polygamie est autorisée, par exemple, dans l'islam, ce qui est défendu. Donc, je ne vois pas comment un seul Dieu pourrait avoir une règle pour une certaine catégorie d'hommes et avoir d'autres règles pour d'autres certaines catégories d'hommes. Donc là, ça veut dire qu'il y a comme une injustice quelque part. De plus, l'assurance du salut que Jésus-Christ donne, c'est ce qui fait la différence avec toutes les autres religions qui peuvent exister. Il n'y a aucune religion qui donne l'assurance à l'homme que s'il meurt aujourd'hui, il sera au paradis. Tous attendent le jour de la mort pour savoir est-ce qu'on va être sauvé ou pas. Jésus-Christ est le seul qui a attesté que celui qui croit en lui, s'il meurt aujourd'hui, il sera éternellement avec lui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de musulmans se convertissent au christianisme. Parce qu'ils ont reçu dans le christianisme des réponses que l'islam ne peut pas apporter. Alors si c'était le même Dieu, eh bien, ce même Dieu leur donnerait la même solution que les chrétiens, celle que nous on a. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ça ne peut pas du tout être le même Dieu. Et que les musulmans rejettent le côté paulien, c'est-à-dire ce qui est lié à Paul. Mais ce qui est lié à Paul fait partie intégrante des Écritures, attestée et reconnue de la part du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on nous explique que l'apôtre Paul, même lorsqu'il a commencé, il a été vers ceux qui ont marché avec Jésus-Christ pour avoir la main d'association, être certain que ce qu'il prêchait était conforme à la parole de Jésus. Donc la parole que Paul enseigne n'est rien d'autre que l'évangile de Jésus-Christ. Donc il y a une différence totalement opposée entre l'islam et entre le christianisme, entre Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout le même Dieu. Il y a un seul Dieu. Alors s'il y a un seul Dieu, ben, il y aura aussi une seule voie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Or, dans l'islam, on refuse d'accepter que le salut se passe par Jésus-Christ. Alors, si c'était le même Dieu, eh bien, il devrait aussi accepter que le salut passe par Jésus-Christ. Et de plus, bon, là, on va entrer dans un long débat, ce qui n'est pas forcément l'objectif de ce soir. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de musulmans qui se sont convertis. On pourra donner des références à ceux qui les veulent, qui ont expliqué pourquoi ils se sont convertis, qui ont donné à partir du Coran des versets qui montraient clairement que Jésus-Christ était le Messie par lequel on doit être sauvé. Or, chez les musulmans, on n'accepte pas que Jésus-Christ soit le Messie. On le considère comme un prophète parmi tant d'autres, ce qui n'est pas biblique. Donc forcément, c'est qu'il n'y a pas le même Dieu.
Amen, gloire à Dieu. Il y a une intervention là ?
C'est juste pour apporter un peu d'eau au moulin.
Le micro est faible. Hein?
Pour dire que le salut s'obtient en Jésus-Christ. La Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est fait homme. Donc, si une religion, quelle qu'elle soit, n'a pas Jésus comme étant la porte, lui-même l'a dit, c'est le seul parmi tous ceux qui se proclamaient comme venant de Dieu qui a eu la possibilité de certifier qu'il est le chemin, qu'il est la porte. Sans lui, personne ne peut accéder au Père. Donc, le salut, c'est en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas une différence, effectivement, comme le pasteur l'a dit, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que tout ce qui se faisait à l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Le sacrifice qui était fait dans l'Ancien Testament, c'était une image du sacrifice qui devait être matérialisé par Jésus-Christ lorsqu'il devait venir sur la terre. Dieu qui donne son Fils unique pour le rachat de l'humanité. Donc, les chrétiens, ce n'était pas un terme que Dieu a institué. C'était les personnes qui ont observé comment les disciples, c'est-à-dire ceux qui marchaient selon les principes de Jésus, fonctionnaient. C'est ça qui a donné le nom de chrétien. Ce n'était pas une religion, ce n'était pas un système religieux, mais c'est des personnes qui marchaient selon la doctrine que Jésus avait laissée et que ses disciples essayaient d'appliquer, qui ont donné le terme de chrétien. Donc, il n'y a pas plusieurs christianismes. Il y a un seul christianisme, c'est celui qui est fondé sur la parole écrite de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est celui qui est fondé sur Christ comme étant le seul sauveur. Celui qui est fondé sur Christ comme étant celui seul qui a donné son sang pour le rachat de l'humanité. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on a le même Dieu parce que les bases de notre croyance ne sont pas les mêmes. Autrement, l'animiste va aussi dire qu'on a le même Dieu. Autrement, le bouddhiste va dire qu'on a le même Dieu. Non, mais il n'y a qu'un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, lorsque Jésus était sur la terre, plusieurs fois, Dieu a fait comprendre aux hommes, « Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Les hommes de cette époque l'ont suivi, les disciples l'ont suivi. Eux-mêmes ont dit qu'ils ont témoigné, ils ont attesté de ces choses. C'est le seul qui est mort, qui est ressuscité. Donc, on ne peut pas dire qu'on a le même Dieu. Il y a des religions, mais la particularité du christianisme, où Christ est le centre, c'est cette relation personnelle avec Dieu.
Amen. Que Dieu soit béni. Oui, intervention.
Ben moi, c'était juste pour en fait rejoindre un peu ce qu'avait dit en fait le diacre Patrick. C'est vrai que cette histoire me fait penser à l'histoire de Saul de Tars. C'est vrai que au travers de ça, ce que j'ai retenu, c'est que on voit en fait les humains, chacun reçoit en fait une image de Dieu en fonction de soit l'éducation, en fonction de ce qu'on nous inculque. Donc on voit en fait au travers de ça que ce monsieur Khalil en fait il pensait vraiment comment dire servir le vrai Dieu, il aimait vraiment Dieu par rapport à l'image que lui il a reçue, et le jour où il a en fait rencontré la vérité, ça l'a affranchi, ça lui a permis de vraiment venir au Seigneur. Donc c'est tout ce que...
Amen, amen. Et c'est un point aussi que j'avais prévu. La question, c'était qu'est-ce qui a fait que Khalil soit perturbé à ce point-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit déstabilisé, qu'il soit dérangé au point où il avait même du mal à dormir? Donc, il y a une partie de la réponse qui a été dite, c'est qu'il aimait Dieu. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à faire? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit perturbé à ce point-là? Le point que j'ai mis, c'est que non seulement il aimait Dieu, mais il voulait une relation avec ce Dieu-là. C'est ça. Et c'est ça, finalement, qui fait la différence, comme on a dit, entre le christianisme et les autres religions. C'est que le christianisme, c'est une vie, tout simplement, avec le Seigneur. C'est une vie véritable. Ce n'est pas que des préceptes à faire. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Non, c'est une vie totale. Véritablement, on vit pour Dieu. On aime Dieu, on a une relation avec lui. Maintenant, cette relation, elle se matérialise comment? Par le fait qu'on prend plaisir à parler à ce Dieu-là, puisqu'on veut être avec lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est agenouillé devant le Seigneur. Il a prié, il a dit, bon, Dieu, je suis confus, je suis perdu, je ne sais pas. Je pensais que c'était le Coran. Maintenant, je lis la Bible, je vois les valeurs de la Bible, je vois l'amour, je vois la paix, je vois le pardon. Il a vu tout ça. Il a crié à Dieu, il a dit, Seigneur, Dieu, révèle-toi à moi. Finalement, c'est cela. Et nous aussi, en tant que chrétiens, ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait une relation avec lui tous les jours. Tous les jours. On se rappelle de cette église en Apocalypse qui était correcte, qui était bien. Et le Seigneur fait des éloges à cette église en disant, je connais la persévérance que tu as. Tu démasques même les faux. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le premier amour, la relation qu'on avait au début, tu l'as perdu. Et moi, c'est ça qui m'a touché, c'est qu'il y a des gens qui disent aimer Dieu, mais le véritable amour va se traduire aussi par, puisque tu aimes Dieu, tu vas vouloir vivre avec ce Dieu-là, tu vas vouloir passer du temps avec lui, tu vas vouloir recevoir de lui, tu vas vouloir lui parler, tu vas vouloir... Et cette démarche-là, malheureusement, beaucoup s'arrêtent à un certain niveau en disant « j'aime Dieu », mais ils s'arrêtent à un certain niveau. Mais lui, il est allé plus loin. Il a voulu avoir une relation avec Dieu, sachant qu'en se tournant vers le Dieu, entre guillemets, des chrétiens, il y aurait des conséquences derrière. Mais l'amour qu'il avait pour Dieu a fait qu'il n'a pas regardé en arrière. Il a continué, il a foncé, il savait qu'il allait être rejeté, il a été frappé par le monsieur qui lui a donné cette mission. Il a sûrement dû être rejeté par beaucoup autour de lui, mais ce qui importait pour lui, c'était sa relation avec Dieu. Et c'est très important de comprendre et de réaliser aussi cela. Et comme on disait, beaucoup qui sont dans la religion, finalement, il n'y a pas de relation avec Dieu, c'est une relation avec une religion, que ce soit, comme on a dit, l'islam, que ce soit... Moi, je vois beaucoup qui font le ramadan, et il va te sortir des valeurs que pendant le mois du ramadan. Et parfois, je pose la question, mais le ramadan, c'est quoi? Non, c'est pour se purifier. Donc, toute l'année, on fait ce qu'on veut, et pendant le ramadan, finalement, c'est ça la religion. Et quand on fait des choses de cette manière-là, on est dans la tristesse, on n'est pas dans la joie parce qu'on est contraint. Ce n'est pas une vie véritable. Or, ce que le Seigneur veut, c'est une vie véritable. Et lui, on voit que cette démarche qu'il a faite, c'est parce qu'il aimait Dieu, mais parce que non seulement il a aimé Dieu, mais il a voulu aller plus loin pour connaître ce Dieu-là, pour que ce Dieu se révèle à lui. Et c'est important, ce point-là. Est-ce qu'il y a encore d'autres observations? Oui.
Je voulais juste rajouter un élément. Je crois que les bien-aimés ont abondamment apporté des éléments de conviction. Nous savons, il est dit dans Galates chapitre 1, verset 11, parce qu'il y a des personnes en fait qui cherchent à attribuer à Paul en fait un autre évangile, alors que ce n'est pas vrai, nous le savons. Juste dans le but de réduire l'impact du message de Paul, alors qu'il a dit ceci dans Galates 1, verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, mais car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Galates. Hein? Donc, l'histoire de dire paulinien, etc., non. On va rentrer dans des termes techniques qui risquent de... Oui, mais le texte que nous venons... Exact. D'accord.
Ok, nous allons continuer. Continuons, s'il vous plaît, continuons. Est-ce qu'il y a le frère Ado aussi qui avait une observation? Oui, la soeur Danielle?
Oui, il a fait une prière importante aussi. Il a dit, Dieu, dis-moi si tu es le Dieu du Coran ou dis-moi si tu es le Dieu de la Bible. Je crois que c'est là que Dieu s'est révélé une nuit à lui. Ça a été clair pour lui. Il avait perdu sa Bible. Dieu lui dit, mais la Bible ne se perd pas. Elle est dans l'armoire. Je crois que ça a été aussi décisif pour lui, cette réponse de Dieu, en fait.
Amen. Donc tu nous réponds à la question qui a été posée tout à l'heure. Voilà, c'est le Dieu de la Bible qui est le véritable Dieu qui s'est révélé à lui. Ok, d'autres interventions?
Voilà, un autre point. Il a fait une comparaison par rapport à l'amour. Parce que dans la Bible, on a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous persécutent. Alors que dans le Coran, on lui a dit que le Coran parle des infidèles, voilà, de persécuter les infidèles, même leurs frères ou leurs sœurs, ils doivent être persécutés s'ils refusent de se soumettre à l'islam. Donc déjà, par rapport à tout ça aussi, ça montre quand même la différence, quoi. Voilà, que Dieu, parce que c'est un papa, il ne va pas demander à ce que ses enfants puissent s'entretuer parce que l'un ne veut pas accepter ou l'autre, voilà. Donc, il y a le côté amour de Dieu qui a aussi joué.
Amen, amen. Et j'allais finir par deux points. Donc, dans ce point-là, le point de l'amour. Lorsqu'on lui parle des chrétiens, Khalil est ferme. Il dit non, je refuse, je ne veux pas aimer ces gens-là. C'est lui-même qui le dit. Mais on voit que lorsqu'il est touché, on voit même, c'est étonnant parce que même le visage, hein, bon, c'est un montage qui a été fait, mais on voit que même le visage a été changé. Mais c'est ce qui se passe réellement. Quelqu'un qui est aigri, qui est dans la haine, eh ben, même le visage, ça se ressent, ça se ressent. Et quand il a affaire en plus à un chrétien dont il a l'impression que celui-là aime vraiment Dieu, plus que même son Dieu, eh ben, voilà, là, cette haine augmente encore. On voit véritablement que l'amour, c'est quelque chose. On voit lorsqu'il est entré chez lui, ses sœurs ont éteint la télé. Et voilà, c'est ça. Mais c'est ça la religion, c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de liberté. Donc les sœurs font des choses tout simplement pour, entre guillemets, plaire non plus à Dieu, mais à leurs frères, parce qu'elles savent qu'il est dur, il est... Et moi, je connais beaucoup d'histoires comme ça, ici même, des gens d'une même famille qui, à cause de leur Dieu, soi-disant, ou de leur honneur, eh ben, ils sont prêts à faire du mal, sans scrupule, à quelqu'un de la famille. On voit que ça, ce n'est pas les valeurs de Dieu. Dieu, la Bible nous dit, Dieu est amour. Et comme on nous a souvent prêché, ce qui fait la différence, et ce que le diable ne pourra jamais manifester, c'est l'amour. Le diable pourra faire des miracles. Le diable pourra faire inspirer de toutes sortes de rhétoriques, de théories, de discussions. Il pourra le faire, mais il y a une chose qu'il ne pourra pas faire, c'est l'amour. Et l'amour, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et lorsqu'il a touché, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, l'amour a abondé dans son cœur. Et sa mère est étonnée, elle se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis devenu chrétien. Elle dit, silence, qu'on ne t'entende pas dehors. Mais on voit cela, c'est ça. Jésus-Christ, c'est l'amour. Et c'est ça le Dieu que nous avons. C'est tellement merveilleux. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Donc nous sommes sauvés, tout simplement, par la grâce de Dieu, mais l'amour qu'il a manifesté. L'apôtre Paul dit, à peine mourrait-on pour les justes, mais Jésus a accepté de mourir pour nous qui étions injustes. On voit la véritable différence entre les religions et la nature du Seigneur, la vie avec le Seigneur. C'est ça, le christianisme, le fait d'être chrétien, comme le frère a dit tout à l'heure, ce mot n'est pas écrit dans la Bible, c'est tout simplement les gens qui voyaient les disciples vivre, ils ont qualifié ces gens de chrétiens, et c'est cela. Et nous aussi, posons-nous la question, là où nous sommes, là où nous vivons, est-ce que nous sommes les ambassadeurs du Seigneur? Est-ce que notre vie manifeste, témoigne de l'amour de Dieu autour de nous? Si ce n'est pas le cas, ayons l'humilité de dire, Seigneur, mets en moi l'amour, que je puisse aimer. J'ai du mal, Seigneur, aide-moi. On voit le contraste, lorsqu'on lui parle des chrétiens, il est en colère, il dit, je ne peux pas aimer ces gens-là. Mais finalement, lorsqu'il est touché, il va même frapper à la porte d'un chrétien. Il dit, non, mais j'ai changé. Le Seigneur m'a visité, je suis touché. Et c'est cela la vérité. C'est l'amour, et persévérons et manifestons l'amour autour de nous. Et c'est là que les gens verront véritablement qui est le Seigneur. Il y a une intervention?
Oui, c'était juste pour apporter une précision à mon intervention de tout à l'heure. En fait, on voit aussi que Dieu s'impose sur les forces des ténèbres. Le diable n'a pas mot à dire. Même s'il n'était pas... d'accord, entre guillemets, pour que Khalil lise la Bible, mais c'est Dieu qui connaissait le cœur de Khalil, et c'est Dieu qui s'impose. En tout cas, le diable n'a pas mot à dire, en fait. Dieu fait sa volonté.
Je voulais quand même intervenir aussi sur la question si...
Tu peux parler plus fort, s'il te plaît.
Je voulais intervenir sur la question si le Dieu de la Bible et du Coran était le même.
Bon, on a déjà fini sur ces débats. Bon, oui, vite.
Parce je voulais que, quand sinon, même. Oui.
Non, on a déjà la parce réponse. Le Dieu de la Bible, c'est le véritable Dieu. Donc, oui, on n'a pas à démontrer. Oui, vas-y, rapidement.
Si on vient sur Jean 14 à partir de 15, eux, c'est ce verset qu'ils utilisent pour dire que Jésus avait parlé de l'arrivée de quelqu'un après lui et eux, ils disent que c'est Mohamed. Or, là, on nous parle du Saint-Esprit. Et quand on lit au 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne connaît, ne, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ahmed, Mohamed n'était pas encore aussi là. Il dit, demeure en vous, le connaissez, il demeure en vous et il sera avec vous. Donc on parle de... Et eux, ils disent, c'est ce verset qui prouve que Mohamed allait venir. Il n'y a rien de clair. Même si on dit que c'est Mohamed, on dit qu'il est, il allait être saint, de quelqu'un de vérité. Mohamed a péché, il a fait la guerre sainte. Il a fait beaucoup de choses mauvaises. Donc ça ne colle pas avec la Bible.
Ok. Et le mot de plus, on passe. Diacre, oui, la sœur Félix.
En fait, moi, je voulais juste revenir par rapport à en fait, l'image que t'as que les musulmans ont un peu du Coran. En fait, le livre, en fait, on a l'impression que c'est soit comme un talisman ou quelque chose, entre guillemets, sacré et tout. Parce que même quand Khalil, en fait, on lui donne la Bible, je pense qu'il se fait cette même... T'as cette même image-là par rapport à la Bible, donc il n'ose même pas toucher ça parce qu'il pense que c'est quelque chose de je sais pas, que c'est le livre en fait qui a un pouvoir ou qui a quelque chose. Et ça me ramène à, même moi, comment dire, lorsque j'étais petite, c'est vrai qu'au niveau du catholicisme, on avait plein d'images, t'as plein de choses erronées. En fait, par rapport à la Bible, on entendait des fois des personnes dire « Oui, si on te tape la Bible sur la tête, tu vas devenir fou et tout. » Et c'est là où on voit en fait que t'as beaucoup de gens ont peur du livre, en fait. En fait, quand on dit « t'as le livre, c'est matériel », alors que c'est plutôt les Écritures. T'as qui ont plus de puissance, en fait, par rapport à la Bible, c'est pas le livre en soi. Parce que beaucoup de personnes, des fois, dans certaines religions, gardent en fait, c'est la Bible comme si c'était un talisman, comme si c'était un truc qui protège et tout, alors que c'est vraiment c'est l'Écriture qui a vraiment de la valeur, en fait. C'est tout ce que je voulais
dire. Oui, c'était pour revenir sur l'élément dont tu as cité, le deuxième élément capital en parlant de l'amour. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous écoutent et puis qui nous regardent aussi. Et on pourrait se poser la question suivante, parce que dans mon expérience, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans d'autres mouvements, qui étaient musulmanes, mais lorsqu'on les voyait fonctionner, qui manifestaient aussi une forme d'amour, une douceur, une sorte de piété, vraiment la personne... C'était l'opposé de ce qu'on pourrait se donner comme image d'un musulman, comme on a vu là avec Khalil. Donc c'est une personne qui va manifester une forme d'amour. Et ces musulmans-là aussi vont dire qu'ils manifestent l'amour, puisque un des piliers de l'islam, c'est l'aumône, c'est de faire l'aumône. Donc ma question, c'est juste de savoir comment on peut préciser véritablement quand on dit l'amour. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit l'amour ?
Oui. Lorsqu'on parle, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on parle d'amour, on dit que Dieu est amour. Donc c'est sa nature. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être dissocié de Dieu. C'est ça. Et lorsque tu parles, par exemple, d'aumône, qui est un acte aussi d'amour, mais finalement, comme tu as dit, une personne qui... La différence, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous, on a la nature du Seigneur en nous. Et cette nature du Seigneur-là, elle ne se manifeste pas seulement dans le fait de faire du bien à l'autre. C'est de aussi pardonner à celui qui m'a fait du mal. C'est aussi... Lorsque je vois que je suis dans une situation où j'ai mon intérêt, l'autre a son intérêt, la Bible me dit, laisse tomber ton intérêt à toi, cherche l'intérêt de l'autre. C'est ça. Et tout ça, ça résume aussi le véritable amour. Et dans ce que tu as dit là, de s'occuper aussi des pauvres, de ceux qui ont besoin, ça va aussi se manifester, mais ça ne sera pas... Je ne le fais pas pour être approuvé par Dieu, mais je le fais tout simplement parce que c'est ma nature et je ne peux pas rester voir une personne souffrante et moi être dans une bonne position. Et ce que tu dis est vrai parce que l'exemple du collègue dont je parle, qui est imam, qui est connu, bon, il était voilà, connu, mais même les jeunes ils disent, hein, lorsque Rachid se fâche, personne ne peut le calmer. Finalement, il y aura toujours des failles dans cet amour-là, dans cette forme de paix, dans cette forme de tempérance, de maîtrise de soi, il y a toujours une limite qui fait que finalement, on se rend compte que c'est par les propres efforts. Et qui peut se battre lui-même par les propres efforts et vaincre ? Finalement, ce n'est pas possible. Or, celui qui est le Seigneur véritablement eh ben, lui, quelles que soient les situations, il peut arriver qu'il fasse mal, mais à ce moment-là, il va s'humilier pour dire, bon, pardon. Ça arrive, moi, parfois, avec les jeunes, que ça soit tendu. Je veux voir le jeune pour aller dans sa chambre, je dis, bon, excuse-moi. Il dit, mais pourquoi tu t'excuses ? Il dit, mais toi, mais tous les autres, ils s'excusent jamais, pourquoi ? Et finalement, cette relation fait que le jour où il veut parler de Dieu, eh ben, il viendra vers moi pour parler de Dieu parce qu'il a vu véritablement qu'il y a le véritable amour qui est là. Donc, s'il veut parler de Dieu, il n'ira pas voir le musulman parce que c'est que l'autre, c'est même pas là. Soit il va se moquer de moi, soit il ne va même pas me répondre. Et c'est ça l'amour. Donc, c'est vraiment Dieu. Et nous, en manifestant la nature de Dieu, eh ben, en manifestant l'amour véritable, eh ben, on va manifester que nous sommes de Dieu. Et cet amour ne se limite pas seulement en faisant des bonnes choses, mais en ayant vraiment la nature à vouloir le bien de l'autre. C'est cela. Oui.
C'est juste pour ajouter que le fait de distribuer des choses, on peut distribuer de façon mécanique ou de façon religieuse, parce que les préceptes nous l'ordonnent. Paul a dit qu'il peut arriver qu'il distribue ces choses aux pauvres, mais sans la charité, ça ne lui sert de rien. Donc, il peut arriver qu'on fasse des distributions, qu'on soit généreux, mais sans amour. Et plus tard, dans 1 Corinthiens 13, je crois verset 2, 3, il décrit un peu les caractéristiques de l'amour selon Dieu. Et lorsqu'on voit ces caractéristiques, on se rend compte que humainement, ce n'est pas possible. Ce n'est que Dieu dans une personne qui peut... ce n'est que Dieu en quelqu'un qui peut produire cet amour. L'amour qui excuse tout, qui n'est pas envieux, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne pas le mal, etc. Humainement, c'est impossible. Ce n'est que Dieu dans le cœur d'un homme qui peut produire ce type d'amour. Donc, ça ne se force pas, ça ne s'apprend pas, ça ne s'étudie pas, c'est naturel, parce que la source, c'est le Saint-Esprit, dont un des fruits aussi, c'est l'amour.
Amen.
Donc, il y aura toujours une différence, il y aura toujours une différence. C'est juste pour rajouter qu'on ne se focalise pas sur ce qu'on voit, mais le véritable, c'est ce qui vient de l'intérieur et qui est produit par la source, qui est Dieu lui-même.
Amen, amen. Amen, amen, amen. La source, c'est Dieu lui-même. Ok, nous allons nous arrêter là. Oui, dernière intervention.
Je voulais aussi nous dire, par rapport à ce qui s'est passé, on a bien vu qu'une telle personne, Khalil...
Tu veux parler plus fort ?
Khalil, les gens pourraient dire qu'il ne serait jamais sauvé. Donc, on a vu ce qu'il a fait avant que... le Seigneur permette tout ce qui s'est passé jusqu'à son salut, jusqu'à ce que vraiment il reçoive le Seigneur. Donc c'était pour nous dire à nous tous qui sommes aujourd'hui chrétiens, parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font quelque chose, ils ont du mal à se relever en culpabilisant, en disant que mais je ne crois pas que le Seigneur pourrait encore me pardonner. Quand on voit des tels cas, on comprend en fait que étant chrétien, le Seigneur... Si le Seigneur nous a sauvés, étant païens, combien de fois aujourd'hui que nous sommes chrétiens, donc que nous puissions vraiment croire, s'il y a des situations, que le moyen que le Seigneur nous donne, c'est la repentance, et après, on peut se relever. Le Seigneur fait grâce.
Amen, amen. Ok, nous allons glorifier le Seigneur pour cette vidéo qu'on a déjà vue plusieurs fois, et moi encore ce soir, le Seigneur me parle encore sur beaucoup d'autres points. Il y a encore un autre point. Lorsqu'au début, ils parlent, ils disent qu'ils sont prêts pour mourir pour leur Dieu, vivre pour lui. Et c'est une leçon pour nous. Si ces personnes sont prêtes à faire cela pour leur Dieu, à combien plus forte raison nous qui sommes là. Et l'apôtre Paul dit, si un seul est mort pour tous, ainsi tous ceux qui vivent, finalement, ils vivent et ils acceptent aussi de mourir pour celui qui est mort pour eux. Et c'est cela, c'est l'honneur de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament, ceux qui nous ont précédés, même dans le Nouveau Testament, un homme comme Paul, un homme comme Étienne, accepter d'être lapidé à cause de la vérité, pour la vérité. Eh ben, c'est là aussi où le Seigneur nous appelle. Et cette mort-là, Étienne, ça a été physique, mais pour nous, cette mort-là, elle ne sera pas toujours physique. elle sera parfois, on sera dans des situations, comme j'ai dit tout à l'heure, où on va se moquer de nous dans la famille, par exemple. On va te mettre la pression. Et à ce moment-là, est-ce que tu décides de mettre de l'eau dans ton vin, de lever le pied de la pédale, comme on dit, avec ta vie chrétienne pour être accepté par la famille, ou est-ce que tu restes sur ta position de chrétien? Le Seigneur nous appelle aussi à vivre, à mourir pour lui dans les actes concrets. Je me rappelle lorsqu'on est parti en voyage voir la famille en Afrique du Sud, il y avait une discussion par rapport au mariage de ma sœur et les frères disaient « Oui, mais le programme est fait, il est carré, il ne faudrait pas qu'il y ait 15 minutes qui dépassent. Il faut que le pasteur qui va parler parle, je ne sais plus comment il voulait qu'il parle 40 minutes ou 30 minutes. Il ne faut pas qu'il parle beaucoup, il faut... » Et ça s'agitait. Et à un moment, mon frère aîné dit « Oui, hein, c'est comme vous, là, hein, monsieur Jean-Luc, vous passez toute votre vie à l'église, vous prenez le petit déjeuner à l'église, vous mangez à l'église, vous restez à l'église jusqu'à 18h. Tout le monde rigolait. Tcha, tcha, tcha. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, moi, je vis pour Dieu. Il se sent tu. C'est une simple réponse, mais il y a des moments où tu es là, tu es seul. Il y a combien 15 personnes qui sont autour de toi qui attaquent Dieu. Et mourir pour Dieu, c'est aussi voilà, être capable, être prêt, accepter qu'on se moque, mais que toi, tu défendes l'honneur de Dieu. Moi, j'ai répondu, oui, moi, ma vie, c'est Dieu. Il se sent tu. Et c'est après, on s'est fait la réflexion, on dit, mais voilà. Mais sur le coup, tu vois, qu'est-ce que... Oh, tu vas sortir la honte, avec un sentiment de dégoût. Mais tu es triste, pourquoi? Si tu aimes Dieu, eh ben, tu défends Dieu jusqu'au bout. Ils se moquaient, ils rigolaient. Oh, ils passent toute la journée, les autres. Ah bon, depuis le matin? Mais oui, depuis le matin jusqu'à 18h. Ils prennent le café, le petit déjeuner, le repas du midi, le soir. Ils se moquaient, ils rigolaient. J'ai dit, moi, je vis pour Dieu. Ça, c'est tu. Voilà, c'est ça. Maintenant, ceux qui se disent aussi chrétiens qui sont là, eh ben, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Ou est-ce que je ne le suis pas? Et si je suis chrétien, mais comment ça se fait que je ne suis pas chrétien comme un autre? Je ne suis pas là pour dire qu'il faut faire la comparaison. Non, ce n'est pas ça. Mais dire tout simplement, nous vivons pour Dieu. Mais cette vie pour Dieu, par moments, il y aura des moqueries. Il y aura des petits pics qui seront lancés comme ça. Et c'est à nous maintenant, avec la force de Dieu, l'aide de Dieu, dire, Seigneur, aide-moi à ne pas faire profil bas. Parce que dans ces moments-là, beaucoup baissent la tête. Et puis, voilà, tu es triste dans ton cœur. Mais non, c'est au moment où il fallait répondre. Comme les amis de Daniel, ils ont répondu au roi. Ils ont dit non. Parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, le roi attaquait leur Dieu. Mais eux, ils connaissent leur Dieu. Ils se sont dit non. On ne peut pas te donner cet honneur-là de dire que toi, tu es le... Ils ont dit non, même si on meurt, même si on est dans la défaite, sache qu'on refuse de se prosterner. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, mais nous restons fidèles à notre Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier afin que le Seigneur nous donne encore de la force, qu'il augmente notre foi au travers du témoignage qu'on a vu aujourd'hui et par rapport à tous les points qui ont été cités, que le Seigneur nous aide à réaliser l'importance de sa parole, l'importance de ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Et prions aussi pour que le Seigneur nous aide à manifester l'amour autour de nous, comme il a été dit, que nous puissions manifester, vivre 1 Corinthiens 13 autour de nous. Et prions troisièmement pour les musulmans en particulier, afin que le Seigneur puisse se révéler à eux. Comme on a dit, le but, ce n'est pas de discuter pour discuter avec les personnes. Le but, c'est tout simplement que les gens soient à même de réfléchir, se poser des questions sur Dieu. Khalil n'a discuté avec personne, mais il a lu la parole de Dieu et il a été convaincu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole de ce soir, Seigneur, au travers de ce témoignage qui nous rappelle, Seigneur, combien tu es tout-puissant, Seigneur. Ce témoignage nous rappelle combien tu es tout-puissant, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions réaliser qui tu es. Peut-être qu'avec le temps, Seigneur, l'usure, Seigneur, se met en place et nous te négligeons, Seigneur. Le fait que nous ayons la parole tous les jours, peut-être que, Seigneur, nous nous habituons à cette parole et, Seigneur, elle ne fait plus, Seigneur, d'effet en nous. Seigneur, nous venons nous repentir aujourd'hui. Seigneur, nous voyons ce que ta parole produit dans le cœur d'un homme, dans le cœur de l'apôtre Paul. Nous avons vu ce que ta parole a produit, Seigneur. Nous avons vu avec l'exemple de ce soir ce que ta parole a produit. Et Seigneur, tu dis que lorsque tu envoies ta parole, tu l'envoies avec une mission précise, Seigneur. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que ta parole agisse dans nos cœurs, Seigneur. Par le Saint-Esprit, merci d'agir. Que ta parole produise en nous l'amour, Seigneur. L'amour pour toi. L'amour pour notre prochain, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, nous délivre de l'égoïsme. Que ta parole, Seigneur, nous délivre du doute, Seigneur, de toute forme de doute que nous pouvons avoir, Seigneur. Seigneur, que ta parole nous délivre, Seigneur, de la détresse, comme il est écrit dans le psaume 107, verset 20. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel qui envoie sa parole, qui les guérit. Nous prions pour que ta parole nous guérisse, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, mets en nous, Seigneur, l'amour, la compassion, le souci pour le salut des âmes. Nous avons vu, Seigneur, que ce soir, même la personne qui paraît, Seigneur, la plus difficile, Seigneur, incrédule, Seigneur, toi, ton amour est plus puissant, plus fort encore pour toucher cette personne. Seigneur, nous prions pour que tu nous rappelles cela, afin que nous ne puissions pas trembler. Afin que nous ne puissions pas trembler, Seigneur, lorsque tu veux que nous annoncions la vérité, que nous puissions annoncer la vérité. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à vivre pour toi, à défendre ton honneur, Seigneur. Nous sommes dans un monde, Seigneur, où il y a la pression. Et Seigneur Jésus, toi-même, tu l'as dit, que celui qui veut te suivre, qu'il soit prêt à porter sa croix, à renoncer à lui-même pour te suivre, qu'il soit prêt même aussi, Seigneur, à te mettre à la première place, avant les parents, avant la famille. Combien de fois il nous est arrivé, Seigneur, des situations où on est contraint de choisir entre toi et notre famille, Seigneur, entre toi et nos intérêts. Seigneur, nous prions, Seigneur, ce soir pour que tu nous aides à te choisir, toi, Seigneur. Quelle que soit la menace, quelle que soit la pression, quelle que soit la pression qui est en face de nous, que nous n'ayons pas honte, Seigneur, de proclamer ton nom, Seigneur, de dire que tu es le Sauveur. Seigneur, que ton nom soit béni pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, dans nos vies. À toi la gloire et la louange, au nom de Jésus-Christ. Amen.